Makes us think about the sort of coalescence between the different visual arts in the 19th century and the way in which this circulation could work or could generate problems, copyright problems, reproduction. So I'm sure you will have a lot of reactions and questions. These reactions and questions can be in French or in English. So I don't know if anybody has a question.
And while your questions are maturing, I will pass around this book with a little stereo viewer if anybody wants to try it out. It takes a little time for your eyes to adjust, and you kind of have to maybe unfocus and refocus, and you can pull the mechanism up and down. See where there's little thumb holes there? You can actually slide, you can actually slide that up and down using your thumbs. If you put your thumbs right in there. Yeah, there you go.
What about mise en abîme, for example, the painting within the painting or the photograph within the photograph? This is what Picasso did with Velázquez, for example, in Les Ménines. Is it? Does the second artist have to buy copyrights or something?
Well, see, it's really interesting. I've never seen a court case that specifically revolves around that. Certainly not in the 19th century. There are famous cases in postmodern art. Jeff Koons is an artist, for example, who was often in trouble for either taking a photograph and then making sculptures or things based on it. And so you have to look at the details of it, but that in the American tradition, at least, this argument of the transformative use is the one that they do. And I would think in the case, there's such a long tradition in art of allusion, right, to other works of art, that the idea that would immediately go into copyright if you quote from another work, you allude to another work in a photograph or in a painting, I don't think the first reflex is copyright. I haven't seen a lot of examples of that in this early period, certainly. But, you know, the line is blurred, and
imitation and inspiration.
That's kind of, I didn't mention at the beginning, but if artists are trained through imitation and emulation, and originality, the concept of originality is sort of developing during the 19th century, you have this tension because and many artists make duplicate originals or make series, right? And so the distinction between an original and a copy, even for a single artist, is not always that obvious. And so that was part of what drew me to the question of copyright for art in the first place, was this idea that it's such a different realm of creativity in this long tradition of imitation, illusion, emulation, that the idea that just any kind of copying would be illegal was certainly not the default.
Revisiting.
Yeah. What's a quotation in an image? I mean, if you have in copyright law, for example, the Berne Convention has a quotation right. All countries that are members of Berne are supposed to allow an exception for quotation for whatever purpose. So you could think it's for teaching or for criticism or for reporting the news or whatever, but really there's a quotation right. And the question is, how do you apply that to visual works? Like, how do you quote from a photograph, for example? Or can you really just use part of a photograph in order to demonstrate something? And so a lot of the cases involving unauthorized uses of photographs on social media have revolved around this. Like, do they really need to use the photograph to make the critical point or to announce, you know, to make the analysis that they're making? Or are they just, you know, enjoying the use of the photograph and not paying for it? And do they really need to use a high-res version, or are they just using a thumbnail version, right? So because it's hard to quote from a photograph, there's these questions of how it's used in what context, whether it's high-res or a thumbnail or whatever, and that sort of thing.
I do have a question for you, but I'm just making sure. Maybe there are some other questions in French or in English. Well, I wanted to ask you about Thomas Barlow's engraving. What mm-hmm. kind of engraving was it? Because you pointed out the fact that there had been a clear distinction between Barlow's engraving and wood engravings, which were not considered as, you know, in violation of the copyright. So was it an etching or was it a lithography? What kind of
I'm wondering how I can put this back on the screen.
I think you've got to share.
Okay. No, I think.
Yeah. I think.
I don't think. Just the screen first.
Yeah. If you. Yeah. Diaporama. Yeah.
No, it's. This is a mezzo tint. This is a form that's often called a mixed method engraving because he did a mezzo tint and then he used additional etching in order to produce kind of more textures and shades. And that's something that you can do. I mean, basically the main difference between engraving on a metal plate and engraving on wood is you're using a different tool, an engraver's burin instead of just a kind of wood carving tool. And you can do cross lines and hatchings and various things that can add to the illusion, the sort of shading of light and dark and all of that. So if we compare these two images, sorry, I'm not sure where it is exactly. Yeah. So, I mean, part of this is slightly deformed by the mediation through the different thing, but it's not at all the same product here because this is engraved on the end grain of blocks of wood that are put back together, as I said. That's why we have these lines. And the material is, you know, of course, it's wood. It gives more, so it's not a metal material that can... The other thing is, there are fundamentally two different types of engraving. One is relief engraving. That is to say, if I'm working on wood, I'm going to carve around the areas that I want to show, and it will be the raised area. So I will carve around, and the raised area will receive the ink. Whereas with intaglio engraving, you actually slice with the knife into the metal, and it's these incisions that are going to receive the ink, and that the pressure from the press of the paper onto the metal is going to force that ink onto the paper. And it produces a much finer grain, much wider range of shades and ability to reproduce a work of art. But you know, by the 19th century, they're mastering wood engraving in a way that's making it much more vivid and much more interesting than the old-fashioned woodcuts, which were done in the plank side of the wood with just a wood carving tool. So wood engraving is between the two, between the old woodcut where you've got this kind of fairly rude, crudimentary look, and the artistic engraving. And then mezzo tint is another thing, and I don't know that much about that, so I don't want to speak off topic about that.
I was just thinking that, thank you very much for this explanation, I was just thinking that to a certain extent this sort of distinction between mezzo tints and, intaglio engravings and relief printing, all of that also open into a reflection on the status of the artist beyond, beyond, a metal plate in one hand or, a woodcut or a wood engraving on the other hand. It's also because I think these, as you showed, with the bolts and the different parts sent to different engravers, the engravers were not considered as artists.
No.
They were considered as like ghostwriters.
There's no signature here.
That's right.
And
yeah.
There wouldn't
yeah.
be.
And they were in these, studios working together and divided the work. So I think it's also a question of the status of the artist, the recognition or not.
Whereas here, there is actually the artist's monogram, as you can't see it here, but the artist, Barlow actually signs his work, is recognized, as you're saying, as an artist in addition to Wallace, where this kind of division of labor is almost like a factory model production.
That's industrial, division of labor.
Is it possible to read what is written on the pieces of paper on the floor? Maybe it could be a clue.
Well, in the painting, we don't have a very good possibility here, but in the painting you can actually see this newspaper, you can actually see the title of the Middlesex Journal, which was one of the London newspapers that he contributed to. It was associated with Wilkes and with John Wilkes, the radical, and one of Chatterton's hopes in life, he met a Lord Mayor who was a Wilkesite Lord Mayor, and this Lord Mayor was impressed with him as a writer and a political hack in a way, and he was hoping that this was going to be his big break, and then that Lord Mayor died, so he didn't have a patron anymore. Afterwards, the literary scholar Nick Groom, who's written a lot about forgery and fraud in literature, he has made an argument, like even in the standard biography of Chatterton in the Dictionary of National Biography by Groom, he says, this myth of him committing suicide is wrong. It's much more likely, if you think about it and you examine the evidence, that he died of an accidental drug overdose rather than a suicide. But that would ruin the story and the fact that Keats and Wordsworth often quoted him. There's a quote from Wordsworth that they use on the advertisement for the painting, sorry. The marvelous boy, the sleepless soul that perished in his pride. That's what Wordsworth said about him.
Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? On peut poser des questions en français, faire des remarques en français ici, en espagnol?
Bon, espagnol, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre, mais peut-être comprendre.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur l'œuvre originale, la fenêtre est plus largement ouverte que sur le stéréographe, et comme si on pouvait imaginer qu'un meurtrier se soit échappé par la fenêtre.
Oui, c'est vrai, c'est plus ouvert, oui, effectivement. Alors après, est-ce que c'est parce que
est-ce
que
c'est... Je crois qu'on a vécu la même chose, c'est les mêmes trucs.
C'est plus ouvert sur la gravure autorisée aussi.
Oui.
Ce que je me disais aussi en voyant le tableau de Wallace, c'est que c'est très théâtral, enfin, c'est très pré-raphaélite, puisqu'il y a ce côté, en fait, avec les couleurs qui ressortent tellement, les cheveux qui sont très roux, le pantalon qui est très bleu-violet, enfin, il y a vraiment des couleurs qui ressortent, donc je pense qu'il mettait cette couche de blanc sous le tableau,
oui.
En fait, il y avait effectivement ce gesso, cette couche, en fait, et le tableau lui-même est très, très théâtral, avant même toute copie ou recopie ou mise en scène stéréoscopique, etc. Il y a quelque chose d'emblée, en fait, qui est vraiment très théâtral et qui se prête, comme tu disais, en fait, à l'idée, avec la stéréoscopie, ça marche bien, l'idée de l'enquête. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut voir tous les détails et on va regarder ce qu'il était en train de lire.
Oui.
Est-ce qu'on va trouver quelque chose que les autres n'ont pas vu?
Et il n'y a pas de trace de la réaction de Henry Wallace, le peintre. Si j'étais peintre, il y avait un procès autour de la reproduction de mon peintre, je pense que j'aurais fait une réaction, mais il n'y a aucune trace. Est-ce qu'il était, intéressé? Est-ce qu'il pensait que c'était, c'était nul que quelqu'un avait fait ça? Est-ce qu'il a trouvé ça plutôt rigolo? Je ne sais rien. Mais...
Il n'y a aucune trace parce que non. C'était Egg qui a acheté, c'est ça. Donc, c'était lui le propriétaire.
Oui, mais ce n'était même pas lui qui a lancé les poursuites. C'était cette troisième personne, l'éditeur des gravures.
Mais ce qui est intéressant, enfin, tout à l'heure tu mentionnais le Getty Challenge. Effectivement, enfin, je ne sais pas si vous aviez suivi en fait, pendant la pandémie, mais il y avait des choses qui étaient assez magnifiques. Enfin, il y avait des reconstitutions qui étaient quand même assez, assez superbes en fait, sur c'était Instagram, je crois.
Et comme on avoue bien pendant la pandémie que en fait, ça n'a pas de sens si on envoie juste l'image qu'on a fait nous à la maison sans mettre à côté de la peinture. Et je pense que parce qu'une partie du plaisir, c'est de le faire le plus fidèlement possible pour que ce soit reconnaissable pour les autres. Et le plaisir de comparer, et de voir des petites différences, des choix artistiques, le fait que ah ben, c'est marrant, que cette famille l'a fait ensemble avec les enfants. Et voilà. Donc, pour moi, c'est pour ça que j'étais fasciné par ce petit étude de cas, ce procès, parce que ben, si on regarde seulement du cadre juridique, est-ce que c'est une copie ou pas une copie, ben, ça semble être une copie, bon, elle est coupable. Mais en fait, ça avait du sens à son époque. En fait, il suivait une tradition culturelle bien ancrée, les relations entre le théâtre, la peinture, les tableaux vivants, la photographie, oui. Tout ça, c'était un... C'était des modes culturels qui étaient extrêmement... Un jour, bon, on verra si... Twitter, c'est une chose, j'ose même plus parler, quoi. C'est tellement c'est... Ça a été pris par Elon Musk, donc je ne veux même plus... Mais s'il y a un archive Twitter, qu'est-ce que les gens vont dire dans 150 ans à propos de nous
Je pense qu'on va passer... Non, puis ce qui est sympa aussi, en fait, dans ces recréations, finalement, quelle que soit la période, c'est que même si on enlève le modèle, il y a aussi, en fait, une forme de complicité qui fonctionne par la connaissance du tableau.
Oui.
Et ça, c'est sympa aussi, en fait, l'idée de retrouver un tableau. Il y a une forme de connivence à travers, effectivement, je reconnais le tableau, donc, effectivement, même si le modèle n'est pas juste à côté... Il y a un peu une circulation d'idées, une sorte de connivence. Donc ça aussi, c'est, ça ne rentre pas dans le copyright, mais c'est intéressant aussi comme fonctionnement.
Et peut-être que cette zoéthica l'a fait uniquement parce que l'artiste original est mort depuis plus de 70 ans aussi. Elle n'aurait peut-être pas osé le faire avec quelqu'un qui...
Ben, c'est vrai, j'ai pas suivi de près. C'était surtout les ouvrages des maîtres... C'était surtout des classiques, ça faisait partie du jeu. Après, est-ce qu'il y avait des gens qui ont aussi fait ça pour des œuvres plus contemporaines?
Cette règle des 70 ans nécessaire après la mort de l'artiste est internationale ou concerne juste le monde occidental?
La plupart des... Il y a presque 200 pays qui ont signé la Convention de Berne. Mais la Convention de Berne laisse libre... certaines questions, et une des questions, c'est la durée. Par exemple, jusqu'à récemment, je ne sais pas si je veux être enregistré sur cette question, mais le Canada, par exemple, avait 50 ans et pas 70 ans après la mort. Les États-Unis, c'était pareil jusqu'à récemment, jusqu'à fin des années 90. Et par ailleurs, les États-Unis ne faisaient pas partie de Berne, c'était seulement en 1989. Après, les questions du droit moral, c'est aussi quelque chose qui varie. Donc même les pays qui signent la convention, ils n'ont pas tous les mêmes règles dans toutes les catégories. Mais le principe de base, c'est qu'ils respectent le copyright des autres pays et les autres pays respectent leur copyright. C'est-à-dire le fait que je sois allemand ou américain ou français, si je publie quelque chose en France ou si je publie quelque chose en Allemagne, le copyright soit respecté dans les trois pays. cette idée de réciprocité. Parce que bah, les États-Unis au 19e siècle ont été souvent critiqués par les auteurs britanniques, par exemple, qui ne comprenaient pas pourquoi aux États-Unis tous les éditeurs reproduisaient librement les romans de Scott, de Dickens, sans autorisation. Et la loi aux États-Unis, c'était que le copyright, c'était pour les œuvres écrites par les auteurs qui étaient soit citoyens, soit résidents. Donc si on était basé au Canada ou en Grande-Bretagne, il n'y avait pas de protection. Et c'est seulement au début du XXe siècle que ça bascule et les États-Unis deviennent plus intéressés parce qu'ils commencent à exporter beaucoup de culture, notamment Hollywood. Donc ils vont appliquer. Mais au XIXe, c'était eux le pays qui copiait sans permission.
Oui, mais il y avait un punch américain aussi. Ouais.
Mais ça, il y avait beaucoup d'arguments politiques très développés. Ça a permis notamment à faire avancer technologiquement, à créer de l'emploi, etc. Après, je ne sais pas si vous avez, par exemple, vous pensez que ça devrait être évident que si quelqu'un crée quelque chose, ça doit être, il faut demander permission à chaque fois, ou est-ce qu'il y a certains usages qui devraient être libres? Ça vous traverse l'esprit parfois de penser à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
Est-ce que, par exemple, je peux utiliser vos devoirs pour faire un article universitaire et le publier?
Vous savez, il y avait un procès aux États-Unis sur les détecteurs de plagiat. Là, est-ce que vous avez un logiciel que vous utilisez, compilation. Alors, les enseignants téléchargent vos devoirs sur compilation pour voir si vous avez triché. Alors, les parents des élèves aux États-Unis ont poursuivi en justice une entreprise équivalente. Elle avait un autre nom, ça s'appelait Turnitin. Ils ont dit, vous utilisez l'expression littéraire de nos enfants sans permission. C'est une violation du droit d'auteur. Et effectivement, c'est un bon argument. Mais après, ça a été déterminé que ces entreprises-là, ils ne recommuniquent pas. C'est-à-dire, ils ne vont pas republier vos devoirs. Vos devoirs sont juste dans une base de données. Ils ne sont pas visibles vraiment. Mais ils sont utilisés, ils sont exploités pour pouvoir créer une réponse, un rapport qui détermine quelle est la probabilité que la personne a plagié et quel passage, etc. Et donc, c'est la distinction très juridique entre utilisation visible et non visible. Et c'est ce que aussi Google, en fait, Google copie beaucoup de ce qui est sur le web. Google ne peut pas fonctionner, un moteur de recherche ne peut pas fonctionner sans copier, sans prendre tout ce qui est écrit, tout ce qui est image, et l'utiliser pour fournir un résultat de recherche. Et ça, c'est juridiquement légal, mais il fallait passer par cette étape. Est-ce que c'est légal ou pas? Parce que c'est une copie qui n'est pas autorisée.
Vous parliez tout à l'heure des documents qui sont protégés jusqu'à 70 ans après la mort de l'artiste ou de l'auteur.
Oui.
Une fois que une fois que les 70 ans sont passés, il n'y a plus aucune limite au copyright ou à la reproduction, il y a quand même...
Non, mais par exemple, en droit français, on distingue entre les droits patrimoniaux. Ça, c'est le droit de bénéficier financièrement de l'exploitation de l'œuvre qui expire bien à 70 après l'auteur. Et les droits moraux qui ne sont pas limités dans les temps. Par exemple, les droits moraux, c'est le droit d'auteur d'avoir son nom attaché à l'œuvre, d'être associé. Ou le droit à l'intégrité de l'œuvre. Que ce ne soit pas morcelé et coupé, voilà. Qui change le sens ou qui change de signification. Et ça dure au-delà. Donc on peut pas dire qu'il n'y a aucune règle. Après, il y a toutes sortes de règles culturelles aussi, il y a toutes sortes de normes de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et les gens peuvent se plaindre, etc. Ils peuvent parler d'une atteinte à leur, voilà, le nombre de leur famille. Ou le... Donc il y a d'autres moyens de se plaindre que le copyright. Il y a d'autres moyens de règlement, de, comment dire, essayer d'influencer sur les pratiques. Et puis il y a tout ce qui est normes professionnelles. Le plagiat, par exemple. Bon, en France, c'est un petit peu différent parce qu'il y a un délit qui s'appelle le contrefaçon. Mais aux États-Unis, en Grande-Bretagne, par exemple, le plagiat n'a quasiment rien à voir avec la violation à droit d'auteur. Par exemple, prenons les œuvres de Shakespeare. J'ai parfaitement le droit de réimprimer une pièce de Shakespeare. C'est dans le domaine public, tout le monde peut le faire. Il n'y a personne à qui il faut demander permission. Mais si je copie une pièce de Shakespeare et je le donne à un jury de prix pour des littéraires, ou si je le donne à mon enseignant, je dis « c'est la pièce que j'ai écrite ». Ça, c'est du plagiat. Mais ce n'est pas un délit, vraiment. C'est une norme. C'est une attente dans le milieu éducatif et aussi dans le milieu culturel que ça ne se fait pas. On ne prétend pas être l'auteur de quelque chose qu'on ne l'est pas. Mais ce n'est pas forcément une violation du droit d'auteur parce que Shakespeare, voilà, il n'y a plus de droit sur Shakespeare. Mais ce serait quand même très bête, sauf si c'était extrêmement bien fait.
Plus d'une personne qui va se dire...
Je ne sais pas.
Un petit problème, là. Après, il y a aussi, après 70 ans, on a aussi des fois des problèmes avec les enfants.
Les héritiers ? Ben oui, parce que les héritiers, ils bénéficient jusqu'à 70 ans après la mort de...
Après 70 ans,
Ah oui, parce que l'auteur est mort.
Oui.
Donc c'est les héritiers.
70 ans, c'est pas très long non plus.
Ben, c'est assez long si on pense au fait qu'au début, c'était 14 ans, et puis c'était 28 ans, et puis c'était en 1842 en Angleterre, c'était la vie de l'auteur plus 7 ans ou 42 ans, parce que selon la vie de la personne, voilà. Mais ça... Donc il y a deux manières de... Deux types d'expansion. Il y a l'expansion dans la durée de protection. Là, on est en une situation où c'est presque ridicule. Parce qu'on a 70 ans, ça s'applique aussi bien à des œuvres prix Goncourt que à des œuvres... toutes les notes que vous avez prises, là... Bon. Tout ce que je griffonne, c'est protégé par le droit d'auteur, mais est-ce que ça a vraiment besoin de 70 ans après mon mort? Je ne sais pas.
Certains ayants droit sont plus procéduriers que d'autres.
Et après, il y a effectivement cette question de publication, ça se pose parfois toujours, parce qu'il y a des œuvres qui n'ont jamais été publiées, des manuscrits, des dessins, des documents d'archives, etc. Et là, il y a des règles différentes. Ça peut durer plus longtemps, la protection. Et... film, c'est différent aux États-Unis, c'est 95 ans pour un film. C'est pas lié à la vie de l'auteur. Ce qu'on appelle la même notion de film d'auteur, d'ailleurs. Alors, le copyright, c'est drôle ou pas drôle? Comme sujet d'exposé.
Est-ce que l'expérience en fait visuelle a été enrichissante? On disait avec Monsieur Cardin qu'il y a une époque assez lointaine où effectivement on avait des petites lunettes comme ça, on pouvait regarder des images en 3D. Mais c'est vrai que oui, c'est.
Je l'ai peut-être fait avec des films comme Avatar.
Ah mais oui,
quand
on était enfant,
Je me souviens que j'avais vu.
Ah oui, il y a des. Oui, bien sûr, mais effectivement, il y a tous les films
en 3D.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Oui,
l'autre jour, avec les étudiants, on parlait de Bram Stoker, qui était manager du Lyceum Theatre à Londres, où Henry Irving et Ellen Terry se produisaient. Et Bram Stoker avait mis en scène The Vampire de Polidori, de Lord Byron, qui n'était pas mort depuis plus de 70 ans. Donc, est-ce que ça signifie qu'il devait demander des droits à Byron ou à ses ayants droit?
C'était quelle année, là?
C'était les années 1880.
Le droit à la dramatisation. Déjà, à
l'époque,
l'adaptation. Déjà, à l'époque, ce n'était pas le mort plus 70 ans. Donc il faut regarder la législation de l'époque et c'était une bataille. La deuxième moitié du 19e siècle, il y avait cette bataille justement sur le droit de le droit d'auteur, l'extension du droit d'auteur à la décision de mettre en scène une pièce. Et puis qu'est-ce qui se passe si c'est une collaboration aussi? C'est juste maintenant c'est tellement institutionnalisé et commercialisé qu'on parle d'acheter des droits et ensuite le scénariste ou cinéaste va peut-être faire complètement autre chose, hein. Mais il a acheté des droits et puis dans le contrat c'est stipulé qu'est-ce qu'il peut faire et peut pas faire. Et à l'époque il y avait des contrats, hein, il y avait des gens qui faisaient ça et puis il y avait des décisions, mais je peux pas dire juste comme ça, pour...
Et le montant des droits était fixé par les ayants droit de l'auteur original?
C'est une question de négociation. Hein. Ouais. Parce qu'après, peut-être tu penses à des organismes collectifs. Parce que dans la musique et même dans la littérature aujourd'hui, il y a des organismes collectifs, en fait, qui... Comment je peux décrire ça? Le SACEM et le...
Oui, c'est ça.
En fait, ça n'existait pas à l'époque. Donc, c'était des négociations individuelles. Mais en France, la Société des gens de lettres, c'est les années 1830, où ils commencent à créer des prix standards et des contrats standards, justement, pour agir collectivement. Et c'était un monde que Françoise connaît bien, c'est que les écrivains ont découvert que dans les années 1830, quand la presse commençait à se libérer un petit peu en France sous la monarchie de juillet, il y avait beaucoup d'impressions, de publications des romans en Syrie, en feuilleton, sans permission. Et donc les auteurs ont commencé à agir collectivement parce que les éditeurs de presse, ils ont dit, c'est pas le même domaine. On n'est pas des éditeurs de livres, c'est la presse. On se copie, on a une tradition, ça cycle. On a le droit de reproduire, etc. Et c'était flou. C'était des nouvelles pratiques commerciales et culturelles. Et donc, les auteurs se sont organisés en face de ça. Et donc, la Société des gens de lettres, si je ne me trompe pas, c'est l'origine. C'est l'usage de la presse périodique, des écrits, des romans notamment, sans autorisation. Et donc, il voulait en fait créer des contrats standards pour que quand tu vends ta nouvelle ou ton roman à un éditeur de presse, pour que si tu utilises un peu, la société gère ça pour que ce soit, pour qu'il y ait un rapport de force plus avantageux pour les auteurs. Sinon, c'est chacun pour soi. Mais c'est vraiment une période où tout ça, c'est en phase de découverte. Les choses qui semblent standards et très corporate aujourd'hui, c'était déjà en phase de construction.
Et effectivement, ça appelle aussi beaucoup de jeux. Je me souviens d'avoir lu et un petit peu travaillé sur ce conflit entre Dickens et Cruikshank, qui avait illustré Oliver Twist. Et il y a eu en fait, je crois même un procès, en tout cas il y a eu un conflit entre Dickens et Cruikshank, Parce que Cruikshank considérait en fait que certaines de ces gravures qui circulaient, qu'il avait faites, avaient été un objet d'inspiration pour Dickens. Et donc,
oui.
Finalement, dans le rapport texte-image sur la littérature illustrée, ces questions-là existaient aussi entre, effectivement, les droits de l'artiste, les droits de l'écrivain et la façon dont les deux pouvaient se confronter. Donc je pense qu'il y a eu des situations comme ça.
La défense que tous les auteurs, tous les créateurs puisent forcément dans un monde où les ressources sont partagées et s'inspirent forcément, cet argument-là est utilisé depuis très longtemps. L'argument que ça n'a pas beaucoup de sens de m'accuser d'avoir volé votre idée ou votre expression parce que, en fait, vous aussi, vous avez bénéficié de tous les auteurs qui ont écrit avant vous. Et tous les auteurs qui viennent après nous vont bénéficier de nous, etc. Et donc cette idée de propriété littéraire ou propriété intellectuelle qui est une propriété sur quelque chose qui n'est pas tangible, c'est quelque chose qui n'est pas en évidence et qui doit être construit et argumenté et disputé. Et la solution un peu de base, c'est de distinguer entre l'idée d'un côté et la forme, l'expression de l'autre côté. Mais ça ne marche pas aussi de la même manière pour les images que pour le texte. Par exemple, on peut dire pour le texte qu'il y a une idée, personne ne peut être propriétaire d'une idée ou une fée sur ce qui se passe dans le monde. Et il peut avoir plusieurs manières de tourner ça, et il faut que chacun prenne le temps de... Voilà. Ne pas copier l'expression exacte, et donc l'expression, l'enchaînement des mots avec, etc., peut être considéré comme éminent de mon travail, de ma personnalité, mais pas forcément l'idée. Mais pour le monde visuel, c'est... Je ne sais pas, c'est pas exactement la même chose, parce que ce n'est pas un alphabet limité exactement de la même manière.
Différents finalement, oui. En fait, hein, des façons, des formes de communication qui sont différentes. Et puis ces questions-là, elles évoluent effectivement avec les technologies. Et donc les questions qui se posent par exemple sur la gravure sur bois au 19e siècle ne se posent pas de la même manière avec effectivement toute la reproduction photomécanique par la suite.
Oui.
Et puis aujourd'hui avec tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, les images, les mêmes internet, etc. Donc, c'est vrai que ces questions-là, elles sont à la fois, ce sont des questions qui sont juridiques, mais qui reposent aussi sur des technologies, l'évolution des technologies. Donc ça rend les choses à la fois intéressantes et complexes.
Il y a monsieur, là, je pense que vous voulez poser une question.
Ah oui. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de, justement, tout ce qui peut être brevet ou droit déposé sur la liberté artistique. Par exemple, il y a pas longtemps un problème avec le noir absolu. Il y avait un artiste qui avait créé,
oui.
Et qui était juste super pour faire pas mal d'œuvres. Et en fait, il avait déposé un droit qui faisait que personne n'avait le droit de l'utiliser. Et ça dérangeait beaucoup de monde, parce que du coup, il y avait beaucoup de gens qui se sont imaginés des œuvres ou des choses, et personne n'avait le droit de l'utiliser. Et il a fallu attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait créé à peu près la même chose, mais en donnant un autre nom, pour que les gens aient enfin le droit de l'utiliser. Et je trouvais que c'était vraiment sympa. Problème d'une certaine manière au niveau artistique, parce que ça bloque pas mal de choses. Et il y avait la même chose dans les jeux vidéo, notamment, avec il y avait un brevet qui avait été déposé sur les écrans de chargement. On sait tous que c'est chiant, les écrans de chargement, ça prend du temps, c'est relou. Et il y avait un jeu sur Atari qui avait créé un écran de chargement qu'on pouvait jouer, en fait, c'était un mini-jeu dans le jeu. Et ça, il y a un brevet qui a été déposé dessus, et depuis, plus personne n'a le droit de le faire.
Oui.
Et ça pose des problèmes à plein d'éditeurs, parce que tout le monde aimerait le faire, en fait. Et du coup, la question, est-ce qu'il y a des fois où on pourrait pas, pour tout le monde, en fait, retirer certains droits qui sont vraiment relous, en fait, pour l'artistique et tout.
Oui, mais vous n'êtes pas seul. Hein. Il y a beaucoup de critiques de les effets pervers et les absurdités qui viennent. Mais les enjeux économiques sont là. Donc ce sont des rivalités pour les jeux vidéo, c'est une rivalité économique. et il cherche à monopoliser quelque chose. Et c'est une propriété intangible parce que c'est une ressource qui est inépuisable. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'il y a deux pommes et je mange une pomme et il reste une seule pomme. Bah, si il y a, dès qu'on a le codage, la programmation pour cette interface-là, bah, tout le monde peut le reproduire. Il n'y a pas de limite. Mais pour créer une limite, pour créer une barrière, il y a cette idée de propriété intellectuelle. Donc en fait, on peut la même chose, pendant la crise Covid, la question des brevets sur les vaccins, c'était capital. Hein. Et ça reste quand même hallucinant. Il y a les gouvernements, les fonds publics qui sont utilisés pour développer des vaccins qui sont ensuite brevetés. Et c'est pareil, c'est-à-dire que oui, il y a un travail scientifique derrière, certes, et mais le problème c'est, une fois que la découverte est faite, une fois que la séquence est connue, etc., ben, c'est très facile à reproduire. Que ce soit le jeu vidéo, le vaccin, produire le vaccin, ce n'est pas la même chose que... Voilà. Mais pour protéger une recette ou une séquence ou une programmation, c'est la propriété intellectuelle. C'est une expansion qui, pour moi aussi, est très loin de la base de... On fait ce choix collectif de créer un monopole temporaire pour encourager la créativité, le progrès scientifique, etc. Et en échange, on bénéficie tous. Bon, ça, c'est l'idée. C'est l'argument de base. Mais après, si c'est juste... c'est difficile d'évaluer l'équilibre. Parce qu'on pose un principe et c'est difficile de dire « Ah oui, mais ça ne s'applique pas à votre jeu vidéo parce que non, mais ça ne s'applique qu'à certains types d'œuvres ou ça ne s'applique pas à votre vaccin parce qu'on est au moment de pandémie. » C'est très difficile. Le principe est posé, la propriété est créée, le concept ensuite c'est légiféré, il y a une propriété intellectuelle. C'est très difficile ensuite à dire « Ah ben non, cette propriété n'existe plus. » Donc il y a tout un mouvement d'open source, etc. Il y a tout le Creative Commons, il y a toutes sortes de réponses à la propriété intellectuelle. Il y a des gens qui volontairement publient leurs œuvres ou leurs logiciels, etc. Pour qu'ils soient libres. Mais si... voilà. Mais les enjeux commerciaux sont...
Les jeux vidéo, c'est un bon exemple, en fait, parce que là aussi, il y a plein de recréations, de choses qui sont connues dans les jeux vidéo, en fonction du type de jeu, on trouve effectivement des choses. C'est encore un autre support qui peut amener... Moi, c'est un domaine que je ne connais pas bien, mais enfin, je pense que c'est effectivement... Ça ouvre... Encore des perspectives.
Une question. C'est une question, peut-être une remarque, c'est que souvent on considère le droit d'auteur comme une façon de protéger contre le plagiat, donner plus de contrôle à l'auteur, à l'artiste sur son œuvre. Mm-hmm. Mais moi je pensais aussi à la question de l'adaptation. Parce que très souvent on voit l'adaptation comme... une extension ou une façon de transposer l'œuvre. Mais dans certains cas, l'adaptation peut, même en ayant les droits pour adapter, peut dénaturer une œuvre. Je oui. pense par exemple à Lolita de oui. Nabokov et son adaptation en film, donc, d'abord par Stanley Kubrick et ensuite par Adrian Lyne beaucoup plus tard, a complètement dénaturé le propos original et. Que ce soit l'histoire de Nabokov, les personnages de Nabokov, et ce, au regard de la culture populaire, parce que maintenant, la culture populaire se base beaucoup plus sa compréhension du personnage de Lolita sur le film de Stanley Kubrick plutôt que le texte original. Donc là, il y a d'une certaine manière, même s'il y a un droit d'auteur, un droit d'adaptation, on peut quand même dire qu'il y avait un problème sur l'œuvre et qu'il y a une forme de corruption de l'œuvre.
Ça dépend de sa perspective. Effectivement, là, vous venez de faire un argument en faveur d'un droit d'auteur fort qui protège au maximum l'auteur. Et on peut toujours chercher à le renforcer. Il y a toujours des gens qui souhaitent faire ça, etc. L'autre côté de la médaille, c'est si c'est très fort, alors l'œuvre, c'est peut-être, les adaptations sont peut-être plus fidèles à l'original, mais leur créativité est limitée. Ça dépend. Peut-être il y a des gens qui aiment beaucoup la version de Kubrick, plus que le roman, et ça n'existerait pas si le modèle est, si la protection est trop forte.
Voilà. C'est-à-dire et plus une question de dénaturer, parce que la version de Kubrick raconte une toute autre histoire, voilà. Une histoire de séduction, une histoire d'amour, teintée d'érotisme, ce que ne raconte pas forcément, enfin ce que ne raconte pas du tout le livre, le roman, et ça crée une sorte de zone d'ombre, peut-être d'identifier les deux, d'identifier le film de Stanley Kubrick comme une adaptation. Alors que finalement...
Un contrat d'adaptation, c'est un contrat comme les autres, c'est-à-dire si l'auteur est vivant, il peut stipuler dans le contrat, oui, je vous cède le droit de faire un film sur mon roman, mais je réserve le droit de visionner la version finale et de décider d'avoir le choix d'annuler le projet ou de ôter une scène ou de faire autre chose. Bon, ça dépend de la position, comment c'est le rapport de force entre les deux parties. Quand on signe un contrat, c'est souvent là le problème. On est tous complètement super petits face à une banque, par exemple, ou face à un assureur, ou face à même à un musée, ou face même à la salle de spectacle. Le billet dit, voici les conditions, vous les acceptez ou pas. Bon, certains auteurs, ils sont dans la même situation parce qu'ils ne sont pas très connus, etc. Et donc, ils n'ont pas ce pouvoir de négociation, ce levier. Mais donc, ça dépend. Donc, peut-être c'est ça. Si, par exemple, l'hypothèse, c'était que vous cherchez une manière de donner l'auteur plus de contrôle sur une œuvre dérivée, c'est ce jeu entre ce qui dit la loi et ce qui se fait en pratique avec les contrats. Et si c'est très simple, la loi justice, l'auteur réserve le droit d'autoriser une version filmique, par exemple, point, le problème du rapport de force se pose. Parce que si l'auteur, son choix va être signer un contrat avec une firme hollywoodienne géante qui a beaucoup d'avocats, beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, peut-être l'auteur n'aura pas beaucoup de marge et il ne peut pas imposer pouvoir visionner la version finale et décider si ça dénature son œuvre ou pas. Donc c'est vraiment là. Souvent, on peut penser que changer la loi, ça va mieux protéger quelqu'un, mais il faut aussi penser à les pratiques. Et notamment les rapports de force, en fin de compte, qui vont déterminer beaucoup de ça.
Et je me demande aussi par rapport, parce que vous avez donné l'exemple de Lolita, de Kubrick, je crois que c'est 1962, je crois que Kubrick, il était aussi confronté en fait à la commission de censure. Et la façon dont Nabokov fait passer en fait son unreliable narrator à l'écrit ne fonctionne pas de la même manière en fait à l'écran, et par conséquent Kubrick il est obligé de fonctionner aussi un petit peu sous forme de sous-entendu, etc. Donc il est complètement aussi par-delà son interprétation, sa lecture et donc son choix d'adaptation de Lolita. Il me semble qu'il est aussi tenu, et c'est pour ça aussi que c'est l'une des différences entre les versions de Kubrick et Elliott Wine qui datent des années 90, c'est que la réglementation n'est pas du tout la même au niveau du cinéma. La commission de censure, je crois que début des années 60, elle était encore très 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 puissante. Mais il est bien, Lolita, j'aime bien.
C'est ce que Vladimir Nabokov dit. C'est un très bon film, mais c'est pas mon histoire.
Ouais, mais c'est comme.
Mais si la protection était trop forte, ça n'existerait pas. Vous voyez un peu ce que le problème de trouver l'équilibre entre le protéger l'auteur et encourager la création des.
Non, enfin, ce que je pensais, c'était que la protection de l'œuvre, la protection de l'auteur, passe pas seulement par la protection contre le plagiat, parce que d'une certaine manière, une œuvre qui se retrouve dénaturée par l'utilisation qui est faite progressivement et qui, à la fin du compte, n'a plus forcément de lien avec qui était fait à l'origine, il y a peut-être aussi une sorte de problème.
C'est, en tout cas, c'est un débat passionnant parce que il peut avoir les gens qui vont vous répondre que bah alors ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'innover sur utiliser les œuvres existantes, les pièces classiques ou la musique classique pour faire quelque chose qui peut heurter les sensibilités de certains mélomanes qui préfèrent Beethoven comme c'était au 18e, 19e siècle. Mais bon, il y a d'autres qui vont dire, ça c'est une nouvelle version de Beethoven qui est excitant, qui est quelque chose de nouveau, quoi. Donc c'est un débat. Voilà, et je pense que, bon, c'est bizarre de mettre un juge ou un législateur dans la position de créer des dispositifs ou d'affirmer des règles qui vont, en fait, avoir des effets culturels et esthétiques. C'est souvent le cas dans des procès de copyright du 18e, 19e siècle, ils commencent à dire que ce n'est pas notre rôle d'être critique littéraire, donc on ne va pas entrer dans la valeur esthétique de cette œuvre. On va juste dire, voilà la règle, cette personne l'a dépassée. Voilà. Mais...
Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Alors, je pense que nous pouvons vraiment remercier Will Slaughter.
Ben, merci d'être là, vraiment.
C'est vraiment passionnant, intéressant, qui a ouvert des tas de perspectives. Et donc, merci infiniment d'avoir accepté
notre invitation. Merci pour l'invitation. Oui.